Vraiment, ça fait du bien de regarder vos petites vidéos et entre autres le groupe Jacoc que j'ai regardé avec ma fille sur mes genoux et je trouvais ça génial qu'elle regarde ça avec moi et qu'on puisse voir ailleurs et puis voir des gens qui font des choses avec très simplement, avec peu de moyens, mais qui font des choses, on va dire, universelles. C'était vraiment très bon. Voilà, merci encore et puis à bientôt.
Merci effectivement, cher AMG, notamment pour cette petite vidéo qui est sur là-bas.org, là-bas.org, qui montre les musiciens de Lumbumbashi, du Katanga, les Djekoke de vendredi dernier en train de chanter et de danser. C'est très très jolie petite vidéo. Merci à tous donc pour ces messages. Aujourd'hui, on va revenir sur un moment qui va nous faire dire qu'on ne perd pas toujours. C'est un procès qui a eu lieu ces jours derniers, dont le verdict a été rendu ce vendredi, et nous l'avons évoqué à l'antenne, concernant la dictature chilienne, celle de Pinochet. Et il se trouve qu'on dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'une cour française, une cour d'assises française a jugé cette dictature? Eh bien parce qu'il y avait quatre franco-chiliens dans cette affaire qui étaient des protagonistes de cette histoire à l'époque et qui ont été torturés et disparus lors du coup d'État ou dans les jours qui ont suivi, dans les temps qui ont suivi le coup d'État de 1973. Quatre franco-chiliens. Et en 98, vous vous souvenez, les poursuites contre Pinochet à Londres, vous savez, ce grand espoir qui avait été celui d'abord évidemment des Chiliens et puis du monde entier attaché à cette histoire, de l'espoir d'un tribunal pour juger Pinochet. Ça n'a pas été le cas. Pinochet est mort tranquillement dans son lit en 2006, mais ça a été là une brèche contre l'impunité, contre l'amnistie et contre l'amnésie. Et par cette brèche, le droit français a pu entrer et procéder à ce procès et à ces condamnations au nom de ces quatre Français disparus à cette époque. Alors, aujourd'hui, avec Antoine Chao, Antoine a suivi tout ce procès passionnément, et on va voir que c'est pas ce qu'on va entendre là. On vous convie non pas à un devoir de mémoire. Dans devoir de mémoire, il y a une devoir, c'est un côté un petit peu moral, un petit peu emmerdant, quoi, le devoir. Et puis la mémoire, ben, ça s'oublie, la mémoire c'est plein de trous. Non, une nécessité de savoir. Il nous semble qu'il y a une nécessité de savoir, même si c'est loin le Chili, même si c'est loin cette histoire qui remonte à 37 ans, c'est important de savoir tout cela. Ça nous concerne, on pourrait dire, oh ben c'est une histoire chilienne, là-bas c'est l'Amérique latine. Oui, bien sûr, il y a une histoire locale qui est assez loin de nous, mais les États-Unis ont eu une part très importante dans ce coup d'État du 11 septembre 1973, une part très importante. Et puis c'est là, en 73-74, qu'est né l'ultralibéralisme. Oui, c'est là qu'est né l'ultralibéralisme. Pinochet a fait appel à l'école de Chicago, les Chicago Boys. Milton Friedman lui-même est venu à Santiago du Chili pour mettre en place ce néolibéralisme qui allait, qui est donc une révolution, une révolution conservatrice, une révolution néolibérale qui a commencé là. Donc, en cela, ce qu'on va entendre jusqu'à 16 heures, nous regarde et on l'espère va vous intéresser. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour là-bas, si j'y suis. Je vous appelle pour étoffer déjà l'information du monsieur qui a informé le public Radio de France Inter qu'il y allait encore avoir une quantité incroyable de licenciements dans les hôpitaux. La dernière de Madame Roselyne